Traduction du sermon de M. Richard Ames à l'occasion du jeûne du 15 août 2020. Son titre, Aller de l'avant. Je vous salue tous depuis le studio de télévision ici à Charlotte. C'est merveilleux d'être ainsi connecté à tous nos frères et sœurs en Christ et à leurs familles dans le monde entier. Vous savez, dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 3 et 4, l'apôtre Paul avait dit qu'il ne pouvait pas être avec eux en personne, mais qu'il était avec eux en esprit. C'est donc en esprit que nous sommes réunis aujourd'hui, en ce jour de jeûne, et nous vous remercions, frères et sœurs, pour votre soutien à l'équipe du siège social, à son conseil des anciens et en particulier à notre évangéliste en charge, M. Gerald Weston. L'Église a toujours été confrontée à des défis. Nous n'avons qu'à jeter un regard sur le passé et nous nous rendrons compte que l'Église a survécu durant tous ces siècles et ces millénaires. Christ est le chef de l'Église et nous sommes membres de son corps, comme il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Aujourd'hui, nous nous humilions devant Dieu à l'occasion de ce jeûne observé par toute l'Église. Nous comprenons évidemment que nous ne jeûnons pas pour faire pression sur Dieu afin qu'il accomplisse notre volonté. Certes, il va arriver que nous jeûnions à cause d'une épreuve particulière, et Dieu nous fera traverser des épreuves. Sans nul doute, beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, pourraient raconter des histoires au sujet de diverses interventions de Dieu et de sa miséricorde lorsque nous avons jeûné et nous sommes humiliés. Mais comme nous l'avons vu dans la sermonnette, notre but en jeûnant est de nous examiner et de rechercher la volonté de Dieu. Nous sommes pleinement conscients de l'existence de Satan le diable et de son intention d'attaquer l'Église, ce qu'il n'a jamais cessé de faire durant les siècles et millénaires passés, et qu'il s'efforcera encore plus de faire à l'avenir. Et c'est pourquoi nous devons nous y préparer. Nous devons donc nous examiner et nous assurer que nous restons sur la bonne voie en ce qui concerne le dessein et la mission de Dieu. Dans le sermon d'aujourd'hui, je veux que nous considérions trois perspectives majeures issues de la parole de Dieu et que nous examinions les défis auxquels l'Église a été confrontée au fil des ans. Voici quelles sont ces trois perspectives majeures de la parole de Dieu, les leçons, l'engagement et la mission. Christ nous a donné une grande mission et il nous a donné à tous le pouvoir de l'accomplir. Sur notre chemin vers le royaume, nous devons veiller à ne pas tomber dans aucun des fossés qui bordent la route. Restons au contraire sur la ligne médiane, car c'est ainsi que nous atteindrons le but qu'il nous a fixé. Nous devons continuer à avancer, et c'est le titre du sermon d'aujourd'hui, « Aller de l'avant ». Certaines églises de Dieu ont cessé d'avancer. Certaines sont tombées dans un des fossés en bordure de la route, d'autres reculent. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, nous lisons 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu ?» Il y a des années, nous avons eu un sermon intitulé « Église en phase de jugement ». Le pasteur d'une autre communauté religieuse à qui j'avais parlé, il y a des années, voulut savoir si l'Église du Dieu vivant considérait son groupe comme étant laodicéen. Je lui ai alors répondu, « Non, docteur Meredith considère qu'il y a des Philadelphiens dans votre communauté, de même qu'il y a des laodicéens dans l'Église du Dieu vivant. » Il va sans dire que pareille réponse a dû rendre ce pasteur heureux. Le fait est qu'il nous faut nous juger nous-mêmes. Nous sommes les restes de l'Église de l'ère de Philadelphie, qui s'efforce d'aller de l'avant et de remplir la grande mission. Nous devons continuer à avancer vers le royaume. Voyons à présent Philippiens chapitre 3. Ici, on nous dit pourquoi nous devons continuer d'aller de l'avant, une chose que M. Rod McNair a mentionnée dans sa sermonnette. Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, nous devons nous efforcer d'atteindre ce but. Remercions Dieu de nous donner de la sagesse, de nous guider, et même, aujourd'hui, de nous humilier devant lui pour en tirer des leçons et aller de l'avant. Mais nous devons nous juger nous-mêmes et avancer vers ce but qu'il nous a donné. Ne nous dit-il pas dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Alors, continuons à aller de l'avant. L'Église de Dieu a toujours été confrontée à des défis. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer des événements du passé? Pour la réponse, allons vers Matthieu chapitre 16, verset 17. Monsieur Wallace Smith en a parlé la semaine dernière dans sa sermonnette. Nous trouvons ici une promesse qui devrait nous donner foi et encouragement. Matthieu 16, verset 17. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, Pétros, une petite pierre, et que sur ce roc, Petra, Christ le rocher, la pierre angulaire de l'Église, je bâtirai mon Église. » Christ continue de bâtir son Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Frères et sœurs, cela devrait nous encourager et nous donner l'assurance que le Christ est toujours actif. Et quoi qu'il arrive, Christ nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre son Église. Verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Remercions-le donc de ce qui nous est donné la direction et l'orientation, et qui nous est promis qu'en dépit de tout, l'Église subsisterait à travers les âges. Je disais donc tantôt qu'à l'occasion du jeûne d'aujourd'hui, j'aimerais parler de trois initiatives majeures que nous pouvons tirer de la parole de Dieu. Première initiative, nous voulons tirer des leçons de ces défis auxquels l'Église a dû faire face dans le passé. Deuxième initiative, nous voulons renforcer notre engagement. Et troisième initiative, nous devons remplir la mission de Christ. Débutons donc avec la première initiative, tirer les leçons de ces défis auxquels l'Église a été confrontée jadis. Il y a une multitude de saints qui ont donné leur vie au cours des millénaires, au point de même s'offrir en martyr. Mais l'Église de Dieu est toujours là et se porte bien. Et nous servons activement son chef, Jésus-Christ, qui est vivant, et nous sommes bien sûr impatients de le rencontrer lorsque la septième trompette retentira. Au cours des 6 décennies de mon ministère dans l'Église, j'ai été témoin de nombreux défis rencontrés par l'Église. Il en est de même pour certains des plus âgés parmi nous. Oui, nous avons enduré ces 6 décennies. Comment? Parce que Christ a promis que les portes du séjour des morts ne prévaudraient pas contre son Église. Lors des défis de 1977 et 1978, M. Herbert Armstrong a souffert d'une insuffisance cardiaque congestive. Certains dirigeants libéraux profitèrent de sa maladie pour rendre l'Église plus libérale, pour changer ses doctrines. M. Armstrong s'est heureusement remis de cette insuffisance cardiaque, mais cela a pris du temps. Dès qu'il fut remis, M. Armstrong s'empressa de remettre l'Église sur la bonne voie. Dans la revue Good News du 11 septembre 1978, il écrivait, et je cite, « À présent, la revue Plain Truth a également été remise sur la bonne voie. » Toujours dans ce même article, il ajoutait, « Depuis mai dernier, j'ai agi rapidement pour remettre l'Église de Dieu sur la bonne voie, en tant que véritable Église de Dieu. » J'ai également remis les programmes de radio et de télévision sur la bonne voie. La tendance à la sécularisation, ainsi que le levain de l'intellectualisme moderne et de l'importance accordée aux détenteurs d'un doctorat, avaient fait de l'Ambassador College une institution semblable aux autres collèges de ce monde. Pour la remettre sur les rails, j'ai dû repartir de zéro. Comme en 1947, avec une seule classe de première année. j'ai dû mettre en charge de cette institution ceux à qui l'on avait enseigné la connaissance que Dieu m'avait révélée au tout début. J'espère que ces mesures, ainsi que mon retour en fonction, feront que, d'ici environ un an, nous pourrons relever l'Ambassador College au niveau d'un collège de Dieu. Finalement, M. Armstrong termine son exposé en exprimant sa profonde reconnaissance à tous ceux qui l'ont appuyé de leur loyauté et de leur fermeté pendant cette période de transition difficile. M. Armstrong s'est donc remis de cette insuffisance cardiaque congestive. Il a fini par reprendre des forces. Ainsi, dans le Worldwide News du 23 avril 1979, il écrivait « À présent, Christ a rétabli dans l'Église la structure de gouvernance qu'elle avait précédemment. Depuis maintenant un an, le chef de l'Église de Dieu, Jésus-Christ, a agi promptement pour remettre l'Église, le collège et l'œuvre de Dieu sur la bonne voie. Pourquoi le Christ vivant m'a-t-il ramené de la mort il y a près de 20 mois? Il est un fait que j'étais alors vraiment mort, car pendant 30 secondes, peut-être même 1 minute et demie, je n'avais pas respiré une seule fois. Si des mesures désespérées n'avaient pas été prises, je n'aurais jamais pris une autre bouffée d'air. Dieu est donc intervenu dans la vie de M. Armstrong. Toujours dans cet article du Worldwide News, M. Armstrong ajoute « Pourquoi Christ, le chef vivant de l'Église, m'a-t-il ramené? Je le sais maintenant en considérant ce qu'il a fait durant les 20 derniers mois. Dieu accomplit un grand dessein ici-bas, et il le fait par l'intermédiaire de certains êtres humains qu'il a appelés et choisis pour diverses responsabilités associé à son grand plan d'ensemble. M. Armstrong a donc été cet instrument dont Dieu, Christ, s'est servi pour remettre l'Église sur la bonne voie. La semaine dernière, plusieurs d'entre nous ont visionné la première ébauche de la vidéo « Behind the Work », en français « L'arrière-scène de l'œuvre », vidéo que vous verrez cette année lors de la fête des tabernacles. Dans cette vidéo, M. Weston accueille des pasteurs régionaux ainsi que des directeurs régionaux, lesquels, à tour de rôle, lui font un rapport à propos des différentes régions du monde dont ils sont responsables. Ainsi, M. Rob Tyler, directeur régional de l'Australasie, y fait des commentaires positifs à propos du leadership de l'Église et y exprime la reconnaissance des membres pour le leadership de M. Weston, ainsi que sa façon de maintenir l'Église sur la bonne voie. J'ai trouvé ce commentaire de M. Tyler particulièrement intéressant. Donc, de nos jours, comme jadis à l'époque de M. Armstrong, nous nous efforçons d'aller de l'avant, d'accomplir l'œuvre de Dieu et d'accomplir sa volonté en restant sur la bonne voie. Quelle est la leçon à tirer de l'expérience que nous avons accumulée durant les défis que l'Église a dû relever dans le passé? La leçon est que nous pouvons faire confiance à celui qui est le véritable chef de l'Église, Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est vivant, actif et puissant. Nous avons certes dû faire face à quantité de défis et continuerons à en avoir à l'avenir. Mais comme nous l'avons déjà lu dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Remercions Dieu pour tout cela. Tournons-nous à présent vers Matthieu chapitre 28, où nous trouvons ce qu'on appelle la Grande Commission. Débutons au verset 18. Matthieu 28, verset 18. « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous le savez, Christ est le Logos, le porte-parole de Dieu, et comme il est dit dans Hébreux chapitre 1, il soutient toute chose, c'est-à-dire l'univers entier, par sa parole puissante. Il est notre Sauveur, et c'est lui qui est à la tête de cette œuvre. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Remercions Dieu de ce que nous ayons Christ avec nous. C'est une promesse qu'il nous fait. Nous avons aussi cette autre promesse de Dieu dans Hébreux chapitre 13, verset 5, où il est dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et je vais parfois me réclamer de cette promesse quand je me sens déprimé. De plus, il promet aussi de ne pas abandonner son Église, et nous le remercions pour la mission qu'il nous confie. Nous savons également que Christ reviendra à la septième trompette, et que notre tâche actuelle consiste à préparer l'Église, le monde et nous-mêmes pour ce grand événement. Ainsi, frères et sœurs, l'Église a toujours eu à relever des défis. Nous n'aurons pas le temps de parler de l'apostasie qui secoua l'Église universelle de Dieu quelques années après la mort de M. Armstrong. Contentons-nous de dire que Dr. Meredith se vit obligé de sortir de cette apostasie afin de raviver l'œuvre avec l'Église globale de Dieu. Et les fruits ont démontré que Jésus-Christ soutenait son évangéliste dans cette entreprise. Et puis, il y a eu cette perturbation de décembre 1998, une conspiration selon moi, lorsque le conseil d'administration de l'Église a évincé Dr. Meredith de l'Église globale de Dieu. Cependant, 75 à 80% des membres et des ministres ont alors choisi de suivre Dr. Meredith pour établir l'Église du Dieu vivant dont nous faisons partie actuellement. Quelles leçons devons-nous tirer des défis auxquels l'Église a dû faire face dans le passé? Leçon numéro 1, les ministres et les membres fidèles sont forts dans les moments difficiles. L'Église va toujours être confrontée à des défis, mais nous faisons confiance à Christ pour diriger l'Église qui est son corps. Et nous remercions Dieu pour vous, nos membres fidèles, qui reconnaissez où Christ travaille. Et nous voulons nous appuyer sur cette promesse de Christ, « Je bâtirai mon Église ». Êtes-vous un membre solide de cette Église? Leçon numéro 2. Soyons de plus en plus engagés. Ces jeûnes de l'Église nous donnent l'occasion de nous humilier devant Dieu. Nous ne jeûnons pas à des fins politiques pour obtenir de Dieu qu'il se joigne à notre cause, mais nous nous humilions devant Dieu pour qu'il nous guide et nous corrige, comme il a été mentionné dans la sermonnette, et afin qu'il nous mette sur la bonne voie. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, avez pu voir l'intervention de Dieu dans votre vie, ainsi que sa délivrance dans des situations graves, et cela parce que vous vous êtes humiliés durant ces crises. La pandémie mondiale a effectué un changement drastique dans nos vies et dans nos habitudes. Un de mes amis, qui n'est pas membre de l'Église, a écrit, et je cite, « Je me sens béni de pouvoir maintenant passer plus de temps avec mes proches, passer plus de temps à profiter de ma maison et de ma communauté, à bien manger chez moi, à faire quotidiennement de l'exercice et à me concentrer sur des choses qui comptent vraiment. Même si j'ai hâte que la vie reprenne son cours normal, je suis heureux que beaucoup d'entre nous aient ainsi pu s'arrêter et sentir les roses, aider ceux qui sont moins chanceux et se reconnecter avec toutes ces valeurs qui comptent vraiment. Je souhaite du réconfort à tous ceux qui souffrent. Je nous souhaite à tous d'avoir la possibilité de réévaluer nos priorités et, éventuellement, de réévaluer nos buts et nos objectifs. » Fin de la citation. Dieu nous a donné ses buts et ses objectifs, mais c'est à nous de nous assurer que nous choisissons les bonnes priorités. Ainsi, lors des festivals annuels, nous nous demandons souvent dans quelle mesure nous sommes dévoués à l'œuvre de Dieu. Veuillez à présent vous tourner vers 1 Jean, chapitre 1. Lorsque nous nous évaluons et voyons nos faiblesses et nos besoins, nous voyons aussi à quel point nous avons besoin du sacrifice du Christ. Nous savons que nous avons besoin d'être pardonnés, et Dieu nous promet ce pardon. 1 Jean chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ainsi, chaque année à l'approche de la Pâque, nous nous persuadons que nous avons besoin de son sacrifice. Et il nous promet dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous confessons nos péchés, il sera fidèle et juste pour nous les pardonner. Ainsi, lorsque nous nous humilions devant Dieu et que nous nous examinons, nous nous demanderons, sommes-nous solidement engagés? Sommes-nous profondément dévoués à l'œuvre que Dieu nous a donné à faire? Dans le World Ahead du 13 août 2020, il y a 2 jours donc, M. Weston faisait cette mise en garde concernant notre jeûne. Il a dit « Concentrons-nous, durant notre jeûne, sur ce que chacun de nous peut changer. Demandons-nous « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Apprenons à nous aimer les uns les autres. » J'espère que nous répondrons à cette exhortation de M. Weston. En effet, qui parmi nous est si parfait qu'il n'a pas besoin de changer? À l'époque de la Pâque, j'ai coutume de demander à ma femme « S'il y a une chose que tu penses que je devrais changer, quelle serait-elle » Elle sera parfois tentée de me proposer plus qu'une chose. 1 Corinthiens 11, verset 31 ne dit-il pas « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » À nouveau, 1 Corinthiens 11, verset 31 dit « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Cela dit, de quelle autre façon pouvons-nous nous examiner? Il y a un article qui pourrait nous aider en cela. Il se trouve dans le numéro de mars-avril 2009 du Living Church News, sous le titre « Auto-examen, une clé vitale pour la croissance ». Vous pouvez aussi y accéder sur notre site lcg.org. Pendant au moins une vingtaine de secondes, M. Ames s'efforce de donner des directives pour que les membres anglophones puissent trouver cet article sur le site web anglophone. Mais cela ne vous sert pas à grand-chose puisque vous devriez plutôt le trouver sur le site francophone. Je crois qu'il s'y trouve. Il suffit de chercher un peu ou de demander de l'aide. Vous savez, faire son auto-examen demande du courage, mais les fruits d'un tel examen sont précieux. Vous connaissez probablement Hébreux chapitre 12, qui passe pour être le chapitre de la correction avec amour. Voyons-le. Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Nous devons donc nous examiner et devenir conscients de ce que nous devons changer, puis décider, avec l'aide de Dieu, de surmonter nos problèmes. Il y a 10 domaines qui se prêtent à un auto-examen, et je vais maintenant les aborder brièvement. L'article « Auto-examen, une clé vitale pour la croissance » mentionné précédemment, en parle. Domaine numéro 1. Il concerne la repentance. Frères et sœurs, j'ai dit à maintes reprises que ce qui doit nous caractériser avant tout, c'est d'être toujours prêt à nous repentir, d'accepter une correction et de réagir pour la corriger. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, Paul avait écrit une lettre particulièrement corrective aux chrétiens de Corinthe. Suite à leur façon d'y réagir, le pécheur parmi eux s'étant repenti, Paul leur adresse une seconde épître. 2 Corinthiens chapitre 7, où il les invite maintenant à réadmettre celui-ci parmi eux. Dans ses commentaires à l'Église, il dit « Vous vous êtes repentis, mais vous n'avez pas eu le genre de tristesse qui est propre au monde et qui mène à la mort. Vous avez eu une tristesse selon Dieu. C'est là le genre de tristesse qu'il nous faudra manifester. Pour ma part, c'est ce que je demande à Dieu dans mes prières. » 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Notez maintenant ce qui suit. Manifestez-vous ce genre de tristesse selon Dieu? Produisez-vous ce genre de fruit? Quelle justification! Quelle indignation! Oui, lorsqu'on voit toutes les abominations qui sont commises dans le monde, ne devrait-on pas s'indigner et soupirer, selon Ézéchiel chapitre 9? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, lisons-nous dans Proverbes 8, verset 13. Poursuivons. Quelle crainte! Dr. Meredith a souvent dit que certains des hauts dirigeants et des évangélistes de notre ancienne association n'avaient pas la crainte de Dieu, qu'il n'avait jamais été conquis par Dieu, et cela demeure vrai, comme il est dit dans Proverbes chapitre 1, à propos des méchants et des insensés qui n'ont pas la crainte du Seigneur de l'Éternel. J'espère que c'est là quelque chose que vous avez, la crainte du Seigneur. Continuons. Quel désir ardent, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. Ainsi, Durant cette période de temps consacrée à notre examen de conscience, prions pour que nous puissions faire naître les fruits d'une tristesse selon Dieu. Souvenez-vous du repentir de Job. On ne s'y tournera pas, mais vous connaissez sa réplique dans Job chapitre 42 versets 5 et 6, où il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Maintenant, ceux d'entre vous qui êtes adultes, ceux d'entre vous qui êtes responsables de votre vie devant Dieu, vous êtes-vous déjà repenti aussi profondément que Job? En êtes-vous déjà arrivé au point où Paul, tout apôtre qu'il était, s'est exclamé « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Vous trouverez ceci dans Romains 7, versets 24 et 25. Ce qu'il dit est un peu similaire à ce que Job avait exprimé lorsqu'il a dit « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Frères et sœurs, c'est là quelque chose que nous devrions tous dire. Le repentir est donc le numéro 1 de nos 10 domaines d'auto-examen. Je vais maintenant devoir passer plus rapidement sur les autres domaines. Domaine numéro 2, la prière. Examinez votre façon de prier. Êtes-vous instantané dans la prière? Priez-vous continuellement? Domaine numéro 3, l'étude de la Bible. Lisez-vous votre Bible quotidiennement? Domaine numéro 4, le jeûne. Quand avez-vous jeûné pour la dernière fois? Réponse facile, n'est-ce pas? Vous êtes en train de jeûner maintenant. Domaine numéro 5, l'amour pour les frères. Combien d'amour avez-vous exprimé envers vos frères au cours de l'année passée? Domaine numéro 6, vos progrès dans la maîtrise de vos problèmes. Les jours des pains sans levain nous enseignent la nécessité de vaincre le moi, Satan et la société. Avez-vous fait des progrès pour surmonter vos problèmes au cours de l'année passée? Domaine numéro 7, votre croissance sous la nouvelle alliance. Avez-vous permis à Dieu d'écrire sa loi spirituelle sur votre cœur et dans votre esprit? Hébreux chapitre 8 et Hébreux chapitre 10 s'expriment à propos de la nouvelle alliance. Dieu écrit ses lois sur nos cœurs et dans nos esprits, certes, mais nous devons coopérer à ce processus. Avez-vous fait des efforts pour intérioriser les 10 commandements en tant que mode de vie? Domaine numéro 8, les dîmes et les offrandes. Avez-vous, au cours de l'année passée, fidèlement versé votre dîme à Dieu? Avez-vous été fidèle dans vos offrandes? Soyez honnête avec vous-même. Vous savez, voler Dieu est une affaire sérieuse. Domaine numéro 9, les avertissements d'Apocalypse chapitre 2 et 3. Ces chapitres constituent un bon moyen de s'examiner spirituellement. Christ y révèle les forces et les faiblesses des 7 églises. Notez ces défis que Dieu nous lance lorsqu'il dit dans Apocalypse 2 verset 7 que « celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises ». Il y parle des églises plurielles. Ainsi, une autre façon de nous examiner est de lire Apocalypse chapitre 2 et 3 pour voir si nous n'aurions pas perdu notre premier amour, à l'instar de l'église d'Éphèse. Enfin, domaine numéro 10, notre soutien à l'œuvre de Dieu. Quel est votre zèle pour l'œuvre de Dieu? Ce sera notre principale considération dans la prochaine partie de ce sermon. Quel est donc le résultat de notre auto-examen? Nous devrions avoir une vision claire de notre nature humaine et de la nécessité de la surmonter. Et nous devrions voir nos lacunes et nos défauts et identifier les faiblesses que nous devons surmonter. Enfin, après avoir vu nos insuffisances, nous devrions d'autant plus reconnaître notre besoin d'un sauveur vivant et d'un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu. Nous parlons ici bien sûr de notre Seigneur Jésus-Christ qui est toujours là pour intercéder en notre faveur, comme il est dit dans Hébreux chapitre 7 verset 25. Dans Jean chapitre 15 verset 5, il nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais d'un autre côté, nous avons aussi cette promesse qu'il nous donne dans Philippiens chapitre 4 verset 13 où il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Lors de notre baptême, nous avons pris un engagement majeur. Nous avons en fait contracté une alliance avec Dieu à ce moment-là. Nous avons été conseillés par un ministre qui nous a alors montré ce qui est dit dans Luc chapitre 14. Voyons-le. Ceux d'entre nous qui envisagent le baptême doivent lire ce passage et réfléchir attentivement à son contenu. À nos étudiants, De même qu'à tous ceux qui envisagent de se faire baptiser, nous demandons « Pourquoi voulez-vous être baptisé ?» Il y en aura peut-être certains parmi eux qui s'imagineront qu'ils n'ont pas besoin d'être baptisés, car, selon eux, ils n'ont jamais rien fait de mal. Quelle erreur ! Non, Romains 3, verset 23, dit que nous avons tous péché, et Romains, chapitre 6, verset 23, ajoute que le salaire du péché, c'est la mort. Voyons donc ce que dit Luc, chapitre 14, verset 25. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Bon, ici, M. Ames parle d'une erreur de traduction dans la Bible anglaise, mais ça ne nous concerne pas parce que Louis II n'a pas fait cette erreur de traduction. Notez que Matthieu, chapitre 10, verset 37, exprime la même chose. C'est là une priorité, frères et sœurs, une priorité qui, me semble-t-il, échappe à certains d'entre nous en ce moment. Ne perdons donc pas de vue ces grandes priorités que Christ nous a fixées. Comprenez que nous avons été rachetés à un grand prix, comme le dit 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Voyons-le, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » C'est donc un test de loyauté. Aimez-vous Christ plus que vous n'aimez votre fils ou votre fille? Abraham était prêt à sacrifier son fils, mais c'était sur l'ordre direct de Dieu. C'est l'événement historique le plus émouvant de Genèse chapitre 22. Et puis, aimez-vous votre position, votre travail, votre personnalité plus que Christ, le Sauveur du monde? Nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Lors du sabbat du 8 août 2020, M. Wallace Smith a donné la sermonnette intitulée « Un aspect négligé de la foi ». Il avait alors attiré notre attention sur Deutéronome chapitre 17, où Dieu expose la manière dont les questions controversées doivent être résolues. Elles doivent l'être par les serviteurs que Dieu aura nommés. Dieu a établi ses serviteurs dans leurs fonctions afin qu'ils portent des jugements. Pourquoi ? Pour préserver l'unité de l'Église, comme nous le voyons à l'occasion de la conférence dont il est question dans Actes chapitre 15. M. Weston a abordé ce sujet en profondeur dans son sermon intitulé « Un temps de détresse », sermon qu'il a donné la semaine dernière et qui était alors destiné aux États-Unis et au Canada, mais qui sera rendu disponible plus tard sur notre site internet lcg.org. Précisons que, dans ce sermon intitulé « Un temps de détresse », M. Weston avait abordé la question des jugements, de l'organisation et de l'administration de l'Église. Aujourd'hui, Dieu soutient toujours les jugements de ses serviteurs. Nous devons avoir cet aspect de la foi qui nous amènera à nous soumettre à l'administration de Dieu et à son œuvre. À ce sujet, voyons Hébreux chapitre 13, où il est question de notre attitude face au gouvernement de Dieu dans son Église. Je me souviens d'un ministre qui, il y a de nombreuses années, était plutôt réticent à se soumettre au gouvernement de Dieu. Il voulait agir à sa guise et ne pas se soumettre à la direction de l'Église. Lorsqu'il lisait Hébreux 13, verset 7, où il est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Il voyait le terme « conducteur » et, pour lui, ce terme était l'équivalent d'un guide, pas nécessairement une autorité à laquelle on devrait se soumettre, d'où son attitude face à l'autorité et au gouvernement dans l'Église. Notez cependant qu'on nous dit d'imiter la foi de nos conducteurs, de ceux qui nous guident, de ceux qui ont la foi de Jésus-Christ qui leur permet d'accomplir l'œuvre et la mission que Dieu a confiée à l'Église, lui qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Notez aussi ce qui est dit plus loin au verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous savez, frères et sœurs, ce concept de soumission est important. Lorsque vous vous êtes fait baptiser, vous avez accepté de vous soumettre. Et lorsque vous vous faites oindre pour être guéri, et qu'un ministre de Dieu vous impose les mains, vous vous soumettez pareillement à l'autorité et au gouvernement de Dieu. Vous vous soumettez alors avec foi. Dieu nous donne donc ce concept de coopération, de soumission et d'obéissance à ceux qui ont autorité sur nous. Monsieur Armstrong avait l'habitude de parler du royaume de Dieu. Récemment, en réécoutant une des anciennes émissions radiophoniques qu'il avait produites il y a bien longtemps, je l'ai entendu dire « Le royaume de Dieu est le gouvernement de Dieu ». Et nous pouvons aussi dire que le royaume de Dieu est la famille de Dieu. Ainsi, nous pouvons dire que le royaume de Dieu est premièrement la famille de Dieu et deuxièmement le gouvernement de Dieu. C'est les deux. Voilà pourquoi dans son sermon du 25 juillet, « Faith to be a light in a darkened world », la foi pour être une lumière dans ce monde de ténèbres, M. Weston nous a lancé un défi sous la forme de deux questions. Première question, avez-vous la foi de croire en Jean chapitre 18 verset 36? C'est parce que beaucoup d'entre nous pourraient se laisser prendre à toutes ces manœuvres politiques et ces influences de notre société, ainsi que ces soi-disant conspirations dont on entend parler. Ne vous laissez pas accaparer par cela. N'oubliez jamais que Dieu est maître de la situation. Nous devons donc veiller, prier et demander l'intervention de Dieu dans le monde. Entre parenthèses, je vous encourage à lire la brochure de Dr. Meredith intitulée « Prophétie accomplie, la main de Dieu dans les affaires du monde ». Note du traducteur, il semble qu'elle ne soit pas disponible en français. Cette brochure est peut-être quelque peu dépassée, mais les principes qu'elle contient sont toujours d'actualité et bien importants. De plus, elle s'accorde parfaitement avec la sermonnette de M. Rod McNair intitulée « Nous sommes ses sentinelles », où il nous enjoint de nous acquitter de cette responsabilité dont il est question dans Ézéchiel chapitre 33. La deuxième question que M. Weston nous a demandé de nous poser était « Ai-je la foi de faire confiance à Christ pour diriger et guider l'Église qui est son corps ?» Eh bien, tout comme Dieu avait structuré l'ancien Israël en établissant des dirigeants divinement nommés, il a fait de même à notre époque. Si vous ne pouvez discerner où Christ travaille activement pour accomplir la grande mission, priez et demandez à Dieu de vous aider à voir où cela se fait. Comment pouvez-vous le savoir? Voyez-le dans Matthieu chapitre 7 verset 20. Matthieu chapitre 7 verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quels sont les groupes de l'Église de Dieu qui remplissent la grande mission que Dieu a confiée à l'Église? J'y reviendrai plus tard. Certains d'entre vous nous ont écrit pour soutenir le conseil des 17 anciens dirigés par M. Weston. Et ce soutien est d'une grande importance pour nous. Nous apprécions tous les frères qui prient pour nous et pour l'Église dispersée de par le monde. Quelques-uns d'entre vous ont été facilement perturbés par certaines des directives que nous avons données, même s'ils n'auraient pas dû l'être. Sachez que ces hommes du Conseil des Anciens ont vécu bien des défis au cours de leur décennie de service dans l'Église de Dieu. De fait, les membres du Conseil des Anciens totalisent plus de 500 années d'expérience ministérielle, ce qui est beaucoup, et plusieurs ont déjà 50 ans de ministère derrière eux. Considérez leur commission biblique telle que donnée par Jésus-Christ et notez les directives qu'elle contient au profit de l'Église. Comprenez aussi qu'un jour nous devrons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Vous trouverez cela dans Romains chapitre 14 verset 10. Passons maintenant à 2 Corinthiens 5 verset 10, où une fois encore il est dit, 2 Corinthiens 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors, comment allons-nous nous en tirer? Certains se sont éloignés de la vérité. Je me demande ce qu'ils répondront lorsque Christ leur fera comprendre qu'ils n'ont pas rempli ou soutenu la grande commission qu'il nous avait donnée. Oui, que lui répondront-ils lorsqu'il leur demandera « Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre un groupe qui n'a pas adopté comme priorité absolue de prêcher mon évangile aux gens du monde ?» Que vont-ils répondre? J'espère que vous savez tous que vous vous trouvez devant le tribunal de Christ et que vous accomplissez son œuvre et sa volonté. Christ attend donc de ses disciples qu'ils suivent ses directives et qu'ils se comportent en bons disciples qui obéissent aux dirigeants nommés par lui. Tournons-nous maintenant vers Éphésiens chapitre 4. Qui sont les dirigeants que Christ a nommés? Pour la réponse, Éphésiens 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Cela me rappelle un sermon de Dr. Meredith qui était tellement inspirant. Il s'intitulait justement « La stature parfaite de Christ ». Il nous faut donc tous grandir et nous conformer à l'image de Christ. Comment allons-nous y parvenir? Êtes-vous prêt à vous placer sous la férule de ceux que le Christ a établis sur vous et à vous laisser enseigner par eux? La Bible, la pensée de Dieu sous forme écrite, nous donne ces quelques instructions. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, il est encore question de ce concept de soumission. Voyons-le. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 15 et 16. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Nous devons donc être dévoués à l'Église et suivre ses instructions. Dieu établit des ministres dans son Église, comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, et cela pour que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Laissez-moi vous rappeler que nous avons la déclaration de nos croyances fondamentales sur notre site web officiel EgliseDieuVivant.org. Section ressources. Je vous mets au défi de me dire avec combien de ces 29 sous-sections de nos croyances fondamentales vous êtes d'accord. J'espère que vous les approuvez toutes. Comprenons que la Bible est l'expression de la pensée divine sous forme écrite, et nous devons nous y conformer et la mettre en pratique. Éphésiens chapitre 5, versets 20 et 21 dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Cela dit, dans les limites de la loi divine, je m'efforce de me soumettre à ma femme quand elle me demande de faire quelque chose. À ce propos, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Certains d'entre vous me l'ont déjà entendu raconter, je sais. Un jour que nous étions allés rendre visite à l'une de nos congrégations, nous nous trouvions dans un motel. À un moment donné, alors que mon épouse était affairée à faire sa toilette, elle m'a lancé « Dick, je dois me faire les ongles. Pourrais-tu me passer mon petit kit de manucure ?» J'ai alors fouillé dans notre valise et, l'ayant trouvé, je la lui ai jetée et elle l'a attrapé. Tout cela en moins de 5 secondes. C'était conforme à la règle que je m'étais imposée, à savoir de répondre au désir de ma femme en dedans de 5 secondes. Donc, selon Éphésiens chapitre 5, soumettons-nous les uns aux autres avec amour. À noter cependant que le verset suivant ajoute, verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Tournons-nous maintenant vers Jacques chapitre 4. Monsieur Armstrong avait donc coutume de parler de ces 3 initiatives que nous devons avoir. Voici la première. Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Il y en a qui s'imaginent qu'ils sont soumis à Dieu, mais leurs pensées leur jouent des tours. Ce n'est pas le cas. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Oui, l'une des raisons pour lesquelles nous jeûnons est que nous voulons être sûrs de reconnaître les artifices de Satan. Et il continue inlassablement d'attaquer l'Église. Heureusement, Christ est là pour nous sauver et nous défendre, mais nous devons faire notre part. À nouveau, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et voilà la deuxième. Verset 8. Approchez-vous de Dieu. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en jeûnant. Et il s'approchera de vous. C'est là sa promesse et je la revendique souvent. Dans son annonce du 30 juillet dernier, M. Weston avait déclaré « J'ai demandé que tous nos membres observent un jeûne lors du sabbat du 15 août, afin de pouvoir résister à Satan qui s'efforce de nous faire du mal, et afin de nous aider à nous rapprocher de Dieu, qui est notre fondement solide. » Nous nous efforçons donc de nous tenir proches de Dieu. Veuillez à présent vous tourner vers 1 Pierre chapitre 2. Vous savez, il y a des personnes qui sont très réfractaires à ce concept de soumission ou de coopération. Elles auront plutôt tendance à vouloir imposer leurs 4 volontés aux autres, plutôt que de coopérer et de se soumettre dans la crainte de Dieu. Voyons donc 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, il est ici question de l'empereur romain du 1er siècle de notre ère, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Nous devons donc nous soumettre à toutes les ordonnances de l'homme. Voyons aussi 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 5. 1 Pierre 5, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pourquoi le travail que nous accomplissons ici et dans le monde entier est-il si efficace? C'est parce que nous, les membres de l'Église, servons Dieu avec humilité et avec un esprit de coopération. Dieu a béni l'œuvre d'une façon remarquable, et vous le constaterez en écoutant les rapports encourageants que nos directeurs régionaux nous feront dans la vidéo que je vous ai annoncée précédemment et qui vous sera présentée durant la fête des tabernacles 2020. Elle vous montrera clairement les fruits de ces ouvriers et serviteurs de Dieu du monde entier. Mais la plus grande source de notre foi et de notre assurance en ces temps de la fin vient de notre relation avec notre Sauveur Jésus-Christ et notre Père Céleste. Restons donc fidèles à nos engagements envers eux. Pouvez-vous dire honnêtement, « Je suis prêt à donner ma vie pour mon Sauveur » Pouvez-vous dire, « J'ai pris un engagement envers Dieu et je le maintiendrai » Il y aurait aussi ce passage de Romains chapitre 12, un passage auquel nous nous sommes souvent référés, et sur lequel il convient particulièrement de méditer en ce jour de jeûne. Voyons-le. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était là la deuxième initiative, renforcer notre engagement. Jésus nous a donné un but très important dans la vie, rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons renforcer notre engagement et être disposés à grandir spirituellement, à nous examiner, à nous repentir le cas échéant et à surmonter nos faiblesses. Tout cela afin de nous conformer à l'image, au caractère et à la nature de Christ, comme Romains 8, verset 29 nous y exhorte. Quant à la troisième initiative que nous voulons considérer aujourd'hui, c'est de remplir la mission de Christ. Au début de ce sermon, j'avais souligné la grande responsabilité que nous avons en tant qu'Église de Dieu. Christ a donné à l'Église une grande mission et le pouvoir de l'accomplir. Sur notre chemin vers le royaume, nous ne devons pas nous laisser égarer. Nous devons nous concentrer sur l'objectif et continuer à aller de l'avant. Vous connaissez ces passages. Aussi vais-je me contenter de vous les rappeler. Il y a Marc, chapitre 16, verset 15, qui dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il y a aussi Matthieu, chapitre 28, verset 19, que nous avons déjà vu et qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et, de fait, nous avons des membres de l'Église dans 80 pays différents, beaucoup d'entre eux étant dispersés et privés de l'occasion de fraterniser dans une congrégation locale. Nous avons des frères de tous les groupes ethniques, de toutes les langues et de tous les continents du monde. Nous devons prier les uns pour les autres. Cette semaine, M. Weston a demandé à M. Rod McNair d'écrire la lettre pour les membres et les co-ouvriers ici aux États-Unis. Les directeurs régionaux des autres parties du monde feront de même pour ceux de leur juridiction. Par ailleurs, dans la lettre qui sera envoyée la semaine prochaine à nos membres et co-ouvriers ici aux États-Unis, M. McNair écrira ce qui suit. Depuis le début du mois de juillet 2020, Dieu nous a donné accès à 11 nouvelles stations de télévision. De plus, notre département qui s'occupe du courrier, ici à Charlotte, nous informe que le mois de juillet, le mois dernier, a connu sa plus forte augmentation depuis 6 ans, en termes de littérature envoyée, avec un envoi de presque 134 000 brochures, magazines et lettres. Merci pour votre fidèle soutien financier à l'œuvre de Dieu, particulièrement en cette époque de chaos et de perturbation. Je vous ferai part d'une autre nouvelle encourageante tantôt, mais posons-nous d'abord la question suivante. Quelle est la plus grande priorité dans l'Église de Dieu? Est-ce de préparer la future épouse de Christ? Est-ce d'organiser le meilleur camp d'été pour nos jeunes? La plus grande priorité devrait-elle être de diversifier le programme d'éducation de l'Église? Devrait-on chercher à rehausser la réputation de l'Ambassador College? Eh bien, tous ces objectifs sont bons, à condition qu'ils n'étouffent pas l'objectif principal que Christ nous a donné. Il y a des années, un ministre de Big Sandy au Texas avait eu l'audace de faire inscrire sur l'agenda de l'Ambassador College « Quelle est l'œuvre de Dieu ?» L'œuvre de Dieu est l'Ambassador College. Non, il s'était gravement trompé. Il avait pris l'un des bons projets de l'œuvre de Dieu et lui avait accordé plus d'importance qu'à la commission que Christ nous a donnée. J'espère que personne parmi nous, frères et sœurs, ne commettrait pareille erreur. Comme nous l'avons déjà souligné dans Luc chapitre 14, nous aimons notre père et notre mère. Nous aimons nos frères et sœurs, ainsi que nos enfants. Cependant, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Luc 14, verset 26 va même encore plus loin lorsqu'il dit que « Celui qui aime sa propre vie plus que moi n'est pas digne de moi. » Ainsi, honorer nos parents est le cinquième commandement. Mais les aimons-nous plus que Jésus-Christ? De même, êtes-vous plus entiché d'un des aspects de l'œuvre de Dieu que de la priorité que Dieu accorde à l'accomplissement de son œuvre? Quelles sont vos priorités? J'espère, frères et sœurs, que c'est de prêcher l'évangile du royaume au monde. C'est ce que le Christ a fait. Selon Marc 1, verset 14, Christ s'était mis à prêcher le royaume de Dieu à venir et à dire aux gens de se repentir. Alors, quelle est votre priorité? J'espère que vous aussi, vous faites de la prédication de l'évangile une priorité. Vous faites-vous une priorité de suivre les émissions télévisées Le Monde de Demain? Certains d'entre vous n'en sont peut-être pas capables techniquement, mais ceux d'entre vous qui en ont la capacité, vous faites-vous une priorité de les suivre? Entre parenthèses, ne manquez pas l'émission de M. Weston qui sera diffusée cette semaine, l'étonnante commission de Jérémie. Durant cette émission, les téléspectateurs se verront offrir la brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Vous faites-vous une priorité de répondre aux directives de la direction de l'Église? Frères et sœurs, allez-vous profiter de ce jour de jeûne pour renforcer votre engagement à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Renforcerez-vous également votre engagement à remplir la grande mission avec l'aide de Dieu? La plupart d'entre nous sont passionnés d'accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Dr. Meredith avait cette passion, et il nous a fait une belle description de cette mission que Christ nous donne. Vous pourrez trouver l'énoncé de cette mission sur le site lcg.org. Mais, note du traducteur, il vous faudra peut-être de l'aide pour la trouver, surtout si vous la voulez en français. Cette liste de 7 points est évidemment basée sur la Bible. Certains s'objecteront, disant que Dr. Meredith n'avait pas la prérogative de dresser pareille liste. Mais là, vous vous trompez, car la Bible corrobore ce qu'il énonce. J'espère donc que vous remplissez les 7 points de cette mission. Je vais rapidement vous en lire les 3 premiers points. Premier point, prêcher l'évangile du royaume et le vrai nom de Jésus-Christ. Certains prêchent un faux Christ, mais Jésus-Christ a prêché le royaume de Dieu à venir tout en appelant les gens à la repentance. Deuxième point, prêcher les prophéties à propos du temps de la fin, ainsi que l'avertissement d'Ézéchiel au peuple israélite. Nous avons entendu dans la sermonnette de M. Rod McNair que nous avons une telle mission de sentinelle. Enfin, troisième point, nourrir le troupeau et faire en sorte que nos membres parviennent à la stature parfaite de Jésus-Christ du mieux qu'ils peuvent. Et nous avons déjà vu précédemment ce qu'on entend par « stature parfaite de Jésus-Christ ». Ainsi, Dieu bénit son Église à travers le monde. Et nous nous efforçons de remplir ces missions. Comme mentionné précédemment, dans la prochaine lettre aux membres et aux co-ouvriers, vous serez informés d'autres bonnes nouvelles. Parmi elles, citons les suivantes. Après le numéro de juillet-août 2020, le tirage de l'édition anglaise de la revue Monde de Demain fera un bond spectaculaire de 9,4%. C'est dans ce numéro de juillet-août que se trouvait notamment le puissant article de M. Weston ayant pour titre « En pleine tempête ». J'espère que vous l'avez tous lu. La page 4 indiquait que le tirage était alors de 339 000 exemplaires. Eh bien, le numéro de septembre-octobre passera, lui, à 371 000 exemplaires. Ce sera donc une augmentation de 9,4%. Au total, en un an, le tirage de la revue aura ainsi augmenté de 30%. Cependant, comme M. Weston l'a mentionné, notre but n'est pas principalement d'accroître notre tirage. Ce que nous recherchons avant tout, c'est un bon lectorat. C'est pourquoi nous avons adopté la politique suivante. Nous envoyons des formulaires de renouvellement à nos abonnés qui ne se sont pas manifestés d'aucune façon depuis les 3 dernières années, pour savoir s'ils tiennent toujours à leur abonnement. Eh bien, figurez-vous que 10 à 15% d'entre eux vont déclarer qu'ils y tiennent toujours, malgré 3 ans d'apparente inactivité. Ainsi, malgré notre politique en matière de renouvellement, le nombre de nos abonnés n'en continue pas moins d'augmenter. En ce qui vous concerne, frères et sœurs, j'espère que vous demeurez de fidèles lecteurs de notre revue Monde de Demain et que vous suivez la voie tracée par Jésus-Christ. Il y a des années, je me fixais toujours une priorité lorsque j'étais de retour à Pasadena, à l'Ambassador College. Cette priorité consistait à lire les éditoriaux de M. Armstrong. Plus tard, j'ai maintenu cette habitude avec ceux de Dr. Meredith, et maintenant, ceux de M. Weston. Vous lisez ces éditoriaux parce que vous voulez savoir où Jésus-Christ nous mène. Et bien sûr, n'oubliez pas non plus de lire tous ces articles qui paraissent dans le journal et la revue Monde de Demain, cette dernière étant publiée en 3 autres langues. Ainsi, pour ce qui est de l'édition en espagnol, notre tirage en août 2020 était de 23 500. C'est une croissance de 18% en 6 mois seulement. Pour l'édition française, elle est de 8 500, mais elle aussi a connu une croissance de 10% depuis 6 mois. Quant à l'édition Afrikaans, elle tire à 1 500 exemplaires et a augmenté de 7% en 6 mois. Dieu nous donne donc de la croissance. Tournons-nous à présent vers 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous avons donc un travail à faire. Nous plantons, certains vont semer, d'autres vont arroser. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Mais qui donnera l'augmentation? 1 Corinthiens 3, versets 5 à 7 répond. Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Pendant les 7 premiers mois de 2020, nous avons reçu des milliers de demandes pour nos brochures et autres publications. Mais la brochure la plus demandée est celle de Dr. Douglas Winnell, intitulée « Biblical Principles of Health ». Principe biblique pour une bonne santé. Note du traducteur, cette brochure est probablement en cours de traduction pour les francophones. Comme l'a souligné M. Weston, Dieu a clairement inspiré le calendrier pour cette offre semestrielle, laquelle avait été décidée bien avant la pandémie de COVID-19. Ainsi, en date du mois d'août 2020, nous avions déjà reçu plus de 36 000 demandes pour cette brochure inspirante et maintenant d'une actualité brûlante. L'une des publications qui m'a été particulièrement profitable lorsque j'ai découvert l'œuvre en 1960, c'était le cours de Bible par correspondance de l'Ambassador College. Aujourd'hui encore, nous sommes persuadés que notre cours d'études bibliques aide nos abonnés à progresser vers une meilleure compréhension spirituelle jusqu'au point de devenir des membres potentiels de l'Église de Dieu. Au cours des 7 premiers mois de 2020, environ 40 000 personnes ont demandé à recevoir les leçons 1 à 4, et ce, rien qu'aux États-Unis. Ceci est une merveilleuse nouvelle, car cela correspond à plus qu'une simple lecture d'articles. Ici, il s'agit de suivre un cours, d'étudier en profondeur. C'est là ce qu'ont fait 40 000 personnes au cours des 7 premiers mois de 2020. Nous prions maintenant pour que ces personnes s'en servent à bon escient, alors que Dieu les appelle à se convertir. Quelle joie d'accomplir la grande mission de Dieu! Il nous dit dans Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Apocalypse, chapitre 3, verset 7, nous informe que c'est Christ qui nous ouvre les portes ou nous les ferme, et nous le remercions pour tous les accès qu'il nous donne à divers médias. En juillet 2020, nous avons ajouté 10 nouvelles stations de télévision et 4 nouveaux réseaux de distribution, incluant Z Living, ainsi qu'un nouveau temps d'antenne sur CW+, et WGN. Tomorrow's World, la version anglaise de l'émission Monde de Demain, est désormais diffusée sur 120 stations de télévision dans le monde entier, et cela dans 7 langues différentes. Pour cela, nous faisons usage de diverses techniques, comme le recours à des sous-titres, ou, mieux encore, celle du doublage, une méthode qui consiste à remplacer la voix de l'orateur anglais par celle d'un traducteur. Les langues utilisées présentement sont l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le russe, l'ukrainien et le néerlandais. Vous avez peut-être observé qu'un de nos présentateurs, ici à Charlotte, semblait parler en espagnol sur notre site web El Mundo de Mañana. Le doublage est parfois si bon que les téléspectateurs ne sauront pas que nous ne parlons pas vraiment espagnol. Frères et sœurs, J'espère que vous regardez régulièrement nos émissions télévisées et que vous en faites même une de vos priorités spirituelles. Il va arriver à l'occasion que certaines de nos émissions se fassent censurer en Europe, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et même ici aux États-Unis. Mais le prophète Ésaïe nous dit bien, dans Ésaïe 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Ils vont donc censurer certaines de nos émissions parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur parle de leurs péchés. En juillet 2020, les émissions télévisées pour les États-Unis et le Canada ont produit une réponse hebdomadaire moyenne de 2961. Cela représente une augmentation de 21% par rapport à il y a seulement 6 mois. Ces émissions ont simultanément généré une moyenne de 1180 nouveaux abonnés par semaine. C'est là une augmentation de 19% par rapport à il y a seulement 6 mois. Merci à vous, frères et sœurs, pour votre soutien, vos prières et votre engagement dans la prédication de l'Évangile. La plupart d'entre vous sont familiers avec cette instruction de Christ dans Matthieu chapitre 9. Voyons-la. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. N'éprouvons-nous pas de la pitié pour ces gens? Et ils sont des centaines de milliers, voire même des millions, des gens qui sont affamés, opprimés, et même victimes de génocide dans certains endroits du monde. Oh, combien nous souhaitons que le royaume de Dieu arrive pour leur apporter du soulagement. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Est-ce que vous faites cela? Je le fais tous les jours. Vous voudrez donc suivre les instructions de Christ et prier pour que le Seigneur de la moisson envoie des ouvriers dans son champ. Remercions Dieu pour les fidèles serviteurs de son Église qui sont impliqués dans sa moisson. Nous devons donc nous assurer que nous nous consacrons de tout cœur à faire la volonté de Dieu et à soutenir son œuvre. C'était la mission de Christ. Quelle était son attitude? Où avait-il son cœur? Voyons-le dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce là votre priorité dans la vie? » Aujourd'hui, l'Église et ses membres s'humilient devant le Créateur de l'univers, ainsi que son Fils, le Sauveur du monde et la tête du corps de l'Église. Nous le savons, nous sommes de faibles êtres humains, mais nous savons aussi que nous sommes des enfants engendrés de Dieu, appelés à développer son caractère divin, tout en participant à son œuvre et en accomplissant sa volonté. Ceux qui ont pour seul objectif de préparer l'épouse court-circuitent ce processus, parce que la seule façon de préparer l'épouse est d'accomplir l'œuvre que le Christ attend d'elle. J'espère donc, frères et sœurs, que vous allez vous atteler à la tâche et accomplir cette œuvre, de même que sa volonté. Nous devons nous souvenir de ces leçons à propos des défis historiques que l'Église primitive eut à relever, et nous devons placer notre confiance dans cette promesse de Christ qui nous assure qu'il bâtira son Église et que celle-ci subsistera à travers les âges. Nous devons donc nous examiner et déterminer à changer, à croître et à surmonter. Nous devons renforcer notre engagement envers la vérité, le gouvernement de Dieu et l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir notre cœur dans la grande mission que Dieu nous confie et accomplir l'œuvre de Christ dont nous sommes l'épouse et le corps. Lorsque Dieu délivra Israël de son esclavage en Égypte, voyez Exode chapitre 14, le peuple se trouva à un moment donné piégé au bord de la mer Rouge. Et c'est alors que Dieu leur a dit, Exode 14, verset 15, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ce même message vaut aussi pour nous, frères et sœurs. Il a fallu du courage aux Israélites pour passer au milieu de la mer Rouge, avec ses murailles d'eau qui les encadraient. Nous aussi, allons de l'avant avec courage et sans nous laisser piéger par toutes ces controverses, mais en exerçant notre foi pour remplir la grande mission. Remercions Dieu et Christ de ce qu'ils sont avec nous et de ce que nous leur soyons soumis. Nous sommes faibles, certes, mais nous avons été appelés à remplir une mission, celle de préparer le monde, l'Église et nous-mêmes pour le royaume de Dieu à venir. Nous attendons avec impatience l'année 2021 et les programmes inspirants qu'elle va nous apporter, notamment les camps d'été pour nos jeunes et toutes ces autres expériences destinées à ceux qui aiment l'aventure. N'oublions pas non plus toutes ces opportunités d'apprentissage offertes par l'Église du Dieu vivant. Alors examinons-nous, tirons des leçons de l'expérience et des défis que l'Église connut dans le passé. Renforçons notre engagement et accomplissons la grande mission du Christ. Dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul a dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu, pas dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Souvenez-vous que Dieu est amour et qu'il est maître de la situation, malgré tout le chaos qui règne dans notre monde actuel. Nous devons avancer avec courage et ne jamais cesser de le faire. Ce n'est pas seulement notre foi qui doit nous propulser, mais bien plus la foi de Jésus-Christ en nous. C'est en persévérant, en continuant d'accomplir son œuvre et sa volonté, que l'entrée dans le royaume de Dieu nous sera accordée.